Explication rapide du texte de Durkheim, extrait des formes élémentaires de la vie religieuse et portant sur la religion comme fait social. Tout d'abord, un petit mot sur l'auteur. Durkheim est un auteur qui peut être connu de certains d'entre vous, notamment ceux qui font spécialité SES, puisque Durkheim est considéré comme l'un des inventeurs de la sociologie. La sociologie, c'est une science humaine. C'est la science qui étudie le fonctionnement de la société. L'idée fondamentale de Durkheim, c'est que la société est un objet qu'on peut étudier de manière scientifique de la même manière qu'on étudie la nature. En physique ou en biologie, on va chercher à expliquer ce qu'on appelle des phénomènes naturels, ce qu'on pourrait appeler aussi des faits naturels. Par exemple, l'astronomie pourra étudier le phénomène des éclipses, pourra chercher à les expliquer et pourra chercher à les prévoir. L'idée de Durkheim, c'est qu'on pourra faire la même chose avec ce que Durkheim appelle des faits sociaux. Or, pour Durkheim, la religion est un fait social qu'on peut donc chercher à expliquer. On peut chercher à élaborer une théorie du mécanisme qui permet de comprendre l'apparition de la religion, le rôle de la religion dans la société. Dans notre texte, l'objectif de Durkheim, c'est de montrer que la religion, c'est avant tout un fait social. Avant d'être une croyance individuelle, c'est un phénomène qui apparaît dans la société et qui a une fonction d'unification de la société. C'est la thèse du texte, c'est-à-dire l'idée principale de Durkheim qu'il expose dans les deux premières phrases du texte, jusqu'à unité. Bien sûr, Durkheim ne nie pas que les croyances religieuses sont individuelles, mais elles sont avant tout collectives. Elles sont collectives avant d'être reprises par chaque individu. Et par conséquent, si nous avons ces croyances, c'est parce qu'elles nous viennent de la société. C'est la société qui est à l'origine des croyances. On pourrait imaginer qu'un individu se crée sa propre religion, mais pour Durkheim, à ce moment-là, ce ne serait justement pas une religion. Une religion n'est une religion que parce qu'elle est, entre guillemets, je reprends une citation du texte, la chose du groupe. Comme il s'agit là d'une thèse assez originale et qui s'oppose à la thèse selon laquelle la foi religieuse est avant tout une affaire d'opinion ou de croyance personnelle ou de foi, Durkheim va par la suite expliciter cette thèse. Dans la troisième phrase du texte, Durkheim explicite en quoi la religion est fédératrice, c'est-à-dire qu'elle unifie les êtres humains. Il nous dit que les individus, grâce à la religion, grâce à la communauté de leur foi, se sentent liés les uns aux autres. En effet, si cela est assez évident et naturel de se sentir lié à un groupe comme la famille, il peut être beaucoup plus difficile de se sentir lié aux autres membres de la société à laquelle on appartient et avec lesquels on ne partage pas de lien du sang. C'est donc la fonction de la religion, du fait de partager des croyances, que de créer ce lien entre des individus qui ne partagent pas de lien du sang. Dans la quatrième phrase du texte, Durkheim va définir le type de société créée par la communauté des croyances religieuses comme une église. Comme vous le savez peut-être déjà, le mot « église » vient du grec « ecclesia ». L'ecclesia, c'était l'assemblée des citoyens dans l'Athènes démocratique. Aujourd'hui, quand on parle de l'église, on entend deux choses. Ce qui nous vient premièrement à l'esprit, c'est le lieu de culte de la religion catholique. C'est le lieu où se rassemblent les membres de cette communauté des chrétiens catholiques. Comme vous le savez très certainement, les protestants se rassemblent dans un temple, les juifs se rassemblent dans des synagogues, les musulmans se rassemblent dans une mosquée, etc., etc. Donc, église, ça a un sens qui est extrêmement réduit dans cette première acception. Mais l'église, originellement, ce n'est pas le lieu de rassemblement. C'est la communauté, justement, des fidèles. Autrement dit, l'ensemble de ceux qui partagent la même foi. C'est en fait par métonymie qu'on a donné au lieu de culte le nom de la communauté. Durkheim cherche donc ici à revenir au sens premier du mot église pour l'associer à la communauté formée par les croyants, ceux qui partagent une même religion, quelle qu'elle soit. Alors, si on lit plus précisément le texte, ou plus attentivement le texte, il ne s'agit pas que d'une communauté de croyances, mais aussi d'une communauté de pratiques. C'est-à-dire que pour que la communauté prenne réellement corps, eh bien, il faut qu'elle ait un ensemble de rituels, de cérémonies spécifiques qui permettent justement à la communauté de se retrouver, d'être effectivement en lien. Dans les cinquième et sixième phrases, qui sont assez longues parce que Durkheim y accumule un certain nombre d'exemples précis, l'objectif c'est de montrer que bien qu'il y ait une diversité d'organisations des religions, le point commun à chaque fois, c'est qu'il y a bien une communauté unie par la religion, il y a bien une église. Autrement dit, il n'y a pas de religion sans église. Dans la septième phrase, Durkheim cherche à répondre à une objection. Il est vrai qu'il existe des particularités religieuses, des cérémonies particulières, parfois au sein de certaines familles. Donc tout le monde sait ce qu'est une famille, à peu près, même si ça peut, les familles peuvent être différentes d'une société à l'autre, mais ça c'est à peu près clair. Et il peut aussi y avoir des religions au sein de certaines corporations. Alors qu'est-ce que c'est qu'une corporation ? C'est un corps de métier ou une société qui est une micro-société à l'intérieur d'une société plus grande. On peut par exemple penser à la franc-maçonnerie. C'est exactement ce genre de société. C'est une société d'intellectuels qui se regroupent et qui a, en l'occurrence, un certain nombre de rites, de cérémonies qui leur sont particuliers. Alors ici, Durkheim déjoue l'objection qu'on peut lui faire avec ces cultes particuliers, premièrement en montrant que une famille ou une corporation, eh bien, c'est déjà une forme de société ou de communauté, donc c'est une petite église, et ensuite, dans la fin du texte, il va, en fait, donner un nom particulier à ces petites églises. Il va les appeler des chapelles. Alors, évidemment, les chapelles, eh bien, on pense à effectivement ces petites églises, ces petits lieux de culte qu'on peut voir à la campagne, notamment. Mais comme le dit Durkheim, une chapelle, en réalité, c'est un petit groupe à l'intérieur d'un plus grand groupe. Une petite église à l'intérieur d'une plus grande communauté d'églises. Et d'une certaine manière, même un culte familial, même une secte, par exemple, ne sont généralement pas inventées de toutes pièces. Elles reprennent généralement des éléments qui appartiennent à une autre forme de religion, une religion plus importante. L'ensemble de tous ces arguments et de toutes ces définitions avait donc pour but de prouver la thèse initiale, à savoir qu'une religion est avant tout un fait social, c'est avant tout la chose d'un groupe. Une religion a pour origine ce groupe, cette société, et n'a pas de sens en dehors de cette société.